Il n'y a pas de test micro là, tout va bien.
Porto, ouvre les yeux, c'est l'heure.
Bah je suis là, j'ai la pêche. Bienvenue dans la matinale de Bartas.
Un max de local et un peu d'autre chose. Les bonnes ondes sont sur le 107FM.
Décollage immédiat.
Pour les matinales de Bartas. T'as tes lunettes, bordel.
Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Bartas, bienvenue sur le 107, nous sommes le lundi 18 juillet, il est 8h30, la canicule n'aura pas raison de lui, ni le rythme effréné de notre été qu'on travaille comme des oufs à la technique Corto, salut.
Salut, salut, et peut-être qu'il aura raison de moi un jour.
J'ai bien
là, c'est à deux doigts. Là.
J'ai bien l'impression quand même, ça va aller bientôt les vacances pour toi. Au programme de cette matinale, il y a des lundis où c'est tellement agréable, où vous vous sentez tout léger, tout smooth, parce que vous savez que ce qui va se passer va juste être génial. Je dois me pincer pour ne pas rêver. Voilà, 2 ans, elle nous quittait pour le pays du rugby et des Maoris. Pour le pays du haka, elle a officié sur cette radio dans l'émission Balle au centre qui nous manque. Elle est là quelques jours et passe nous voir. Lise, bonjour.
Bonjour Ben. Quelle intro, merci.
J'ai mis 17 points d'exclamation juste après. Quel plaisir de te recevoir ce matin. On causera tranquille comment ça se passe pour toi en Nouvelle-Zélande.
Ouais.
De comment ça s'est passé ces 2 dernières années. Et puis évidemment, il y aura ton petite interview détente à la fin.
Tout à fait. À tout à l'heure.
Tranquillement, c'est que du bonheur. Il est en vacances, alors je trouve ça tout à fait normal de l'exploiter, mais surtout il se pointe chez moi un dimanche alors que je lisais mon Figaro tranquille pour m'emprunter à Monopoly parce qu'il sait que j'ai la version collector Neuilly-sur-Seine et Le Valois-Perret dont le synopsis du jeu est assez simple. Soyez sarco et rêvez comme les Balkany. Raphaël, bonjour.
Bonjour à tous.
Monsieur Couder, histoire brève, de quoi on cause aujourd'hui?
On va parler de l'éducation nationale en période de vacances. L'histoire d'une ambition.
Ah, le mec, il n'arrive pas à décrocher, quoi, c'est fou. Ce sera tout à l'heure et juste après l'édito, nous serons par téléphone avec Isabelle Bonnet qui veut auto-éditer un livre grâce à une campagne de financement participatif qu'elle met en place. Cancer, une opportunité pour être à l'écoute de soi. Elle nous expliquera son parcours, son projet. Il y aura de la musique comme d'hab aujourd'hui. Boris Vian, vous allez comprendre puisque l'édito démarre maintenant.
On peut être en désaccord. Mais enfin, vu le ramassis de saloperies que je vous ai dégoté là...
Ce n'est que l'édito des Bartas.
C'est l'été, les amis, et évidemment, il y aurait plein de choses à dire, mais c'est un conseil de lecture aujourd'hui. Pas d'un livre, mais d'une œuvre entière. Vernon Sullivan. Alors, les amis, qui est Vernon Sullivan?
Tu viens de le dire.
Merde.
Non, mais tu l'as dit. Quand on allait écouter une musique de lui.
Je l'ai dit.
Ouais.
Boris Vian, sous le pseudo Vernon Sullivan, il a publié l'œuvre que Philippe Boggio, son biographe et pas que, a qualifié de pornographique. J'irai cracher sur vos tombes. Boris Vian est incroyable. Trompettiste incroyable, poète incroyable, romancier, parolier. Sa vie se terminera, oh ironie, par une crise cardiaque devant l'adaptation du roman que je viens de vous citer. Une jolie mort insolite que vous auriez pu citer, monsieur Couder, avec vos chroniques. Allez les réécouter, elles sont toutes sur notre site. Au bord du Tarn, auditeurs, auditrices, je vous conseille ce qui est pour moi un chef-d'œuvre, un recueil de poèmes paru aux éditions 10-18. Enfin, je l'ai connu sous cette édition, mais pour la vérité vraie, Je voudrais pas crever est en fait un poème écrit par Boris Vian en 1952 qui donne son titre à un recueil de poèmes rédigé pendant la période sombre de 51 à 53 et qui ont été réunis en 1962 aux éditions Jean-Jacques Pauvert par son biographe et préfacier Noël Arnaud. Tout est parfait dans ce recueil. Tout ce que l'humain peut écrire de beau, de rêve, de sensation, ce recueil commence par ce fameux poème « Je voudrais pas crever » mais continue avec des poèmes de fous comme « Le pourquoi je vis » que vous écouterez dans un instant avec la douce voix de Jean-Louis Trintignant, tout autant talentueux qui nous a quittés il y a quelques semaines. « Je voudrais pas crever » c'est juste l'incarnation même de tout ce qu'a rêvé Boris Vian. J'ai toujours été impressionné par ces auteurs, autrices, capables de mettre de belles images derrière des mots. Ça commence comme ça, je voudrais pas crever sans savoir si la lune, sous son faux air de thune, a un côté pointu. Si le soleil est froid, si les 4 saisons ne sont vraiment que 4. Sans avoir essayé de porter une robe sur les grands boulevards, sans avoir regardé dans un regard d'égout, sans avoir mis mon zob dans des coins stop bizarres. Ce poème finit comme ça, je voudrais pas crever, non monsieur, non madame, avant d'avoir tâté le goût qui me tourmente, le goût qui est le plus fort, je voudrais pas crever avant d'avoir goûté la saveur de la mort. La maladie a toujours été présente dans la vie de Boris Vian, son écriture est absolument incroyable et je vous conseille absolument toute son œuvre. Pourquoi je vis, suis son Je voudrais pas crever, un génie par un génie, Vian par Trintignant. Ah oui, je t'ai réveillé, excuse-moi.
De Boris Vian, pourquoi que je vis? Pourquoi que je vis? pour la jambe jaune d'une femme blonde adossée au mur, sous le plein soleil, pour la voile ronde d'un pointu du port, pour l'ombre des stores, le café glacé qu'on boit dans un tube, pour toucher le sable, voir le fond de l'eau qui devient si bleu, qui descend si bas, avec les poissons, les calmes poissons. Ils paissent le fond, volent au-dessus des algues cheveux, comme oiseaux lents, comme oiseaux bleus. Pourquoi que je vis? Parce que c'est joli.
L'incroyable trintignant sa voix toute posée, c'est un acteur absolument incroyable. Boris, même s'il est mort en 1959, reste un auteur dans le vivant. Le lire, ça donne un peu d'air frais, il fallait que je la fasse. Bon matin sur Bartas, on écoute Boris Vian, le temps d'appeler Isabelle Bonnet, c'est parti.
Autrefois pour faire sa cour, on parlait d'amour. Pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant c'est plus pareil, ça change, ça change. Pour séduire le cher ange, on lui glisse à l'oreille. Ah, Gudule, viens m'embrasser et je te donnerai un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dalopio, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau, une tourniquette pour faire la vinaigrette, un bel aérateur pour bouffer les odeurs, des draps qui chauffent, un pistolet à gaufre, un avion pour deux. Et nous serons heureux. Autrefois s'il arrivait que l'on se querelle, l'air lugubre on s'en allait en laissant la vaisselle. Maintenant que voulez-vous, la vie est si chère, on dit rentre chez ta mère et on se garde tout. Ah Gudule, excuse-toi ou je reprends tout ça. Mon frigidaire, mon armoire à cuillère, mon évier en fer et mon poêle à mazout, mon cire godasse, mon repas solimace, mon tabouret à glace et mon chasse-filou, la tourniquette à faire la vinaigrette, le ratatine ordure et le coupe-friture. Et si la belle se montre encore rebelle, on l'affiche dehors pour confier son sort au frigidaire, à l'efface poussière, à la cuisinière, au lit qui est toujours fait, aux chauves-savates, aux canons à patates, à l'éventre de tomates, à l'écorche poulet. Mais très très vite, on reçoit la visite d'une tendre petite qui vous offre son cœur. Alors on cède, car il faut qu'on s'entraide, et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois, et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois, et l'on vit comme ça.
La complainte du progrès par Boris Vian, de retour en plateau, et nous sommes par téléphone avec Isabelle Bonnet, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous m'entendez bien ?
Oui, je vous entends bien, oui.
Eh bien, nous aussi, c'est parfait. Alors, vous souhaitez auto-éditer votre livre « Cancer, une opportunité pour être à l'écoute de soi ». Vous avez lancé une campagne de financement participatif sur Ulule. Commençons par le début. Vous avez vous-même été atteint d'un cancer du sein. Comment vous l'avez appris ? Quel est simplement votre parcours face à cette maladie ?
Alors, je l'ai appris lors d'un examen de routine, en fait, hein, puisque c'était quelque chose qui ne se décelait pas comme ça. Donc, bien sûr, ça a été un choc émotionnel très fort, un cataclysme, comme on peut l'imaginer, surtout quand on pense qu'on est en bonne santé, on ressent rien. Très vite, j'ai ensuite été bien pris en charge par une équipe médicale au top, quand même, on peut le dire. Et puis, j'ai été opérée début janvier, et voilà, j'ai complété mon parcours avec de la radiothérapie. Et puis, le livre, l'écriture s'est très vite imposée à moi, en fait.
On va en parler. Alors déjà, pour vous, le dépistage est une chose super importante. On ne le dit jamais assez, mais un cancer du sein pris à temps guérit très très souvent.
C'est ça, exactement. Puis le dépistage, et puis au moindre... voilà, c'est très important de le faire, effectivement, oui, oui, oui.
Alors évidemment, après l'opération, c'est chimio et radiothérapie, c'est une phase extrêmement dure. Comment vous l'avez vécu ?
Alors moi, j'ai eu la chance d'avoir, entre guillemets, que de la radiothérapie. Hein. La piste chimio a été écartée, donc c'était pour moi quand même une bonne nouvelle. Et pour la radiothérapie, effectivement, j'y suis allée, mais en mettant en place des thérapies naturelles pour m'aider au mieux, en fait.
Ah oui, justement, on va en parler. Hein. Vous vous êtes tournée vers ce qu'on appelle ces médecines alternatives. Comment vous en êtes arrivée à vous y intéresser ?
Alors déjà avant ça, je me suis assez intéressée depuis quelques années à toutes ces thérapies naturelles, hein, qui sont l'acupuncture, le magnétisme, les huiles essentielles. Enfin, j'étais déjà assez ouverte à ça, mais effectivement, depuis le parcours, enfin, depuis ce qui m'est arrivé, c'est monté vraiment de plusieurs crans, on peut dire. Ouais. Mmh. Oui, oui.
Justement, est-ce que la réponse paraît évidente, mais est-ce que les effets ont été bénéfiques, vraiment bénéfiques en utilisant ces médecines ?
Oui, bien sûr, à la fois sur le plan physique, mais aussi sur le plan mental, puisque ça a été aussi un soutien psychologique et physique, on peut dire. Donc, j'ai vraiment allié les deux, en fait, pour avoir du confort, on va dire. Oui, oui, oui.
Alors, concrètement, qu'est-ce que vous avez mis en place, qu'on comprenne vraiment tout le programme que vous avez mis en place ?
Alors, par exemple, pour la radiothérapie, forcément, si on ne fait rien, entre guillemets, il y a des brûlures, hein, qui se passent comme... voilà, c'est des coups de soleil, mais puissance beaucoup plus importante. Donc moi, j'avais une amie qui est magnétiseuse et qui est aussi spécialiste en lithothérapie, qui m'a accompagnée dans mon parcours. Donc après chaque séance, forcément, j'allais la voir. Et elle me faisait des soins, à la fois des soins énergétiques, mais aussi pour conjurer les brûlures, puisque maintenant, c'est aussi reconnu, hein, de toute évidence, par les centres, et notamment par là où j'étais aussi suivie. Même si on ne vous le dit pas dans les protocoles, hein, c'est à vous de le chercher. Donc du coup, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidée, puisque les brûlures ont été vraiment réduites à faible quantité, on peut dire, si je peux m'exprimer ainsi, bien sûr. Oui.
Alors justement, vous dites, et ce sera l'objet de votre livre, que finalement, ça a été une opportunité, ce cancer, pour être à l'écoute de soi. Vous entendez quoi par là ?
En fait, dans ce livre, je vais raconter effectivement mon parcours, mon histoire, ce que j'étais un petit peu avant, mon journal de bord, parce que ça c'est important aussi, et puis ensuite je vais montrer effectivement que ça permet d'ouvrir les horizons et d'être à l'écoute de soi, parce que dans ce qui vous arrive, il y a des protocoles, il y a des choses qui se mettent en place, on vous dit de faire des choses. Mais il faut surtout pas oublier de s'écouter soi et de vraiment ressentir ses propres besoins, en fait, ce qui est pas du tout évident, parce que quand on est dans ce cas de figure-là, on a tendance à tout écouter de ce qu'on vous dit et à faire ce qu'on vous dit. Mais il faut aussi écouter son corps, son propre corps et ses propres attentes. Et ça permet vraiment, ça donne l'occasion de se recentrer sur tout son être intérieur, en fait.
Comment vous êtes ressorti de cette expérience douloureuse ?
Grandi avec des horizons qui s'ouvrent énormément. Enfin, c'est vraiment une explosion d'horizons, si je peux dire ça ainsi, avec de très belles rencontres. Et puis surtout, ça m'amène vers un chemin de reconversion, en fait, parce que je ne vais surtout pas faire ce que je faisais avant, ma vie professionnelle d'avant, qui n'avait déjà plus grand sens, hein, pour moi, mais qui a signé vraiment le passage vers autre chose. Ça, c'est clair.
Alors, votre livre, est-ce que ça y est, il est écrit ou il est en cours d'écriture ?
Alors, il est en train, hein, je suis en train de le peaufiner. La sortie, moi, je vise une sortie prévue entre septembre et novembre pour m'accorder encore du temps, hein, pour finaliser tout ça. Mais oui, oui, il est en bonne voie d'écriture et de fin, on va dire, oui, oui.
On en reparlera dès qu'il est sorti, tenez-nous au courant. Pourquoi est-ce que vous avez choisi l'auto-édition ?
Parce que déjà, les maisons d'édition, elles reçoivent plus de 300 manuscrits par jour, donc c'est pas forcément évident pour elles de lire tout ça. Moi, j'avais pas forcément envie d'être dans l'attente d'un retour de leur part, parce que voilà, j'attendais pas forcément ça. Et puis ça amène surtout une indépendance, le fait de s'auto-publier en termes de droit, en termes d'indépendance, ça correspond vraiment à mon tempérament et à ce que je voulais faire, oui.
Alors évidemment, vous l'avez dit, hein, le dépistage est ultra important, mais au-delà de ça, quels conseils vous donneriez à celles et ceux, parce que rappelons quand même qu'1% des cancers du sein peuvent concerner les hommes, quels conseils vous pouvez donner aux personnes qui apprennent qu'elles sont atteintes d'un cancer ?
Déjà, comme je disais tout à l'heure, de se recentrer sur ce qu'on a envie de faire, sur ce qu'on veut faire, même si c'est, comme je disais tout à l'heure aussi, c'est un cataclysme et tout semble vraiment très très nébuleux, on ne sait pas où on va, il y a beaucoup d'incertitudes, hein, évidemment, beaucoup de nuits sans sommeil aussi, mais je dirais qu'il faut vraiment être à l'écoute de soi et ne pas hésiter à se tourner en complément, hein, je dis bien en complément, vers les thérapies holistiques et naturelles qui sont d'un grand soutien, oui.
Alors j'ai rencontré quand même aussi malheureusement beaucoup de personnes qui ont été atteintes d'un cancer du sein, qui me disaient qu'il y a aussi une part dans la guérison qui se passe dans la tête. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?
Oui, bien sûr, j'en parle aussi dans mon livre. Je dis qu'il faut être vraiment acteur ou actrice de sa guérison, c'est-à-dire déjà comprendre pourquoi, parce qu'il y a aussi toute une symbolique, hein, de la maladie. Pourquoi ? Donc ça c'est important pour voir, parce que le côté émotionnel est très très fort. C'est pas seulement les autres facteurs qui... C'est l'addition, hein, de plusieurs facteurs, mais il y a aussi le facteur émotionnel qui est très fort. Donc c'est important de se retourner vers ça, vers cette symbolique. Pourquoi on en est arrivé là, qu'est-ce que mon corps veut me dire. Et puis surtout pour mettre aussi des choses en place, pour être vraiment actrice ou acteur de sa guérison et participer concrètement à ça et pas être spectateur, pas de faire uniquement ce qu'on vous dit de faire, quoi.
Cancer, une opportunité pour être à l'écoute de soi. Vous faites un appel à un financement participatif. C'est sur Ulule, hein, c'est ça, je ne me suis pas trompé.
Exactement, oui, oui, sous l'entité Isadora YB. Isadora avec un Y. Y-S-A-D-O-R-A, plus loin YB. Puis il y a le lien également, qui est un petit peu long, mais je pense que vous le relayerez.
Exactement, je mets ce lien sur notre site dans un instant. Merci beaucoup pour votre témoignage, Isabelle.
Merci à vous également. Je vous souhaite une très belle journée, ainsi qu'à tous les auditeurs et auditrices. Merci.
Avec plaisir et merci beaucoup. À très bientôt. Bonne route. Au revoir.
Merci, à très bientôt. Au revoir.
Raphaël, t'es chaud ?
Oui, oui, toujours.
Eh ben, on y va. Hein. Histoire brève, jingle.
Si tu fais pas l'histoire, c'est pas l'histoire qui va te faire.
Hein ?
Histoire brève, histoire brève.
Elle est bien faite cette matinale, hein ?
Ouais, ça s'enchaîne très bien, il y a des jingles de qualité,
incroyable.
Technique au point, c'est parfait.
Monsieur Couder !
Oui ?
Bah on vous écoute. Hein.
C'est parti. Monsieur de Paris, bonjour déjà.
Bonjour.
Ça faisait longtemps que nous ne nous étions pas vus.
Ah,
peut-être
hier.
Vous ai-je manqué ou peut-être pas. Votre voix et votre visage sont si insondables qu'il est toujours difficile de deviner vos intentions ou vos sentiments. Je sais seulement que plus le temps passe, plus vous avez du mal à vous passer des membres du personnel de l'éducation nationale, puisque je crois savoir que vos collaborations avec des professeurs se multiplient.
Exactement.
J'ai entendu parler de nombreux projets avec des grands établissements scolaires locaux que vous menez. C'est peut-être une façon pour vous de vous rapprocher de ce milieu qui est du fonctionnaire qui vous fascine tant et que vous n'avez jamais intégré. Faire de la radio est finalement la solution que vous avez trouvée pour toucher du doigt le corps enseignant qui vous fait tant envie. Je ne vous jette pas la pierre, au contraire, je vous comprends. Je suis conscient d'avoir beaucoup de chance d'appartenir à l'éducation nationale, corps et bien. Chaque jour que Dieu fait, enfin, que le ministère de l'éducation fait, n'oublions pas que nous sommes dans un pays laïque, m'émerveille tant je suis heureux de me saisir de ma sacoche en cuir, de prendre mon gilet jaune à coudière, d'échausser mes lunettes en demi-lune, de récupérer mes mèches de cheveux gras qui tombent sur le côté pour les rabattre sur mon crâne en une tentative désespérée pour dissimuler ma calvitie précoce et mal assumée, avoir consulté mon calendrier offert par le syndicat du SNES en début d'année où sont surlignées toutes les vacances et les grèves prévues pour l'année 2022-2023, et ainsi pouvoir caler en avance mes vacances pour une semaine de voyage organisée entre Strasbourg et le sud de l'Allemagne, intitulé « Retour aux sources d'Arte ». Wow. Je prends ensuite ma voiture pour un court trajet de 15 minutes au volant de ma berline diesel en écoutant France Culture à la radio.
Évidemment, pas Radio Bartas.
Non.
Faudrait pas te cultiver non plus. Hein.
Avant d'arriver au collège, je m'arrête chez le buraliste de Florac pour acheter Le Monde diplomatique, un paquet de tabac bon marché et 17 kilos de café pour tenir la journée. Une fois ma voiture garée, je peux entrer dans le collège direction salle des profs, où je peux parler avec mes collègues de nos projets pour les vacances et des résultats des élections. Bien évidemment, nous nous alarmons des résultats des partis d'extrême droite tout en fustigeant ce gouvernement inefficace qui ne fait rien pour dégeler notre point d'indice et qui réduit tous les ans nos effectifs. Nous échangeons aussi deux mots sur les potins du collège, histoire de savoir si tel ou tel élève ont rompu, et si cela résulte du fait que celui-ci ait trompé celle-ci avec sa meilleure copine, ou si c'est parce qu'il a oublié de liker son dernier post Instagram. Puis c'est la sonnerie.
C'est trop cool la salle des profs, c'est, en fait.
On y apprend beaucoup de choses. Puis c'est la sonnerie. Nous avons juste le temps d'avaler un dernier café, un croissant, une part de gâteau au chocolat que nous a apporté la collègue de français qui fête ainsi sa mutation, et de marquer notre nom sur le tableau blanc de la salle pour bien nous inscrire au repas de fin d'année qui aura lieu au resto bio, qui est juste à côté de l'établissement, je cite, les volets rouges. Nous sortons ensuite en banc de la salle des profs et gravissons péniblement les escaliers qui nous mènent jusqu'à nos somptueuses salles de classe où nous attendent Ali ni comme des harengs, nos chers bambins. Nous entrons, ils sortent leurs affaires et ça sonne déjà. Les élèves quittent la salle dans le brouhaha, en tentant sans succès d'être le premier à sortir. Peste, nous n'aurons jamais le temps de finir le programme. Et ce cycle se répète ainsi inlassablement jusqu'à la fin de la journée, à 15h. Nous sortons alors, éblouis par le soleil qui commence déjà à redescendre doucement l'horizon. Nous nous regardons avec un sourire le sentiment du devoir accompli et nous dirigeons docilement chacun vers nos voitures pour rentrer dans nos maisons où nous attendent nos enfants Marie-Églantine, Odilon, Prométhée et Plutarque. Mon labrador blanc, que j'ai affectueusement appelé Blanquer, me fait la fête en me sautant dessus et salissant ainsi mon pantalon en velours marron. Diantre, je ne pourrai pas le remettre la semaine prochaine. Tandis que j'allume ma pipe, je m'assois confortablement à mon bureau et sors un tas de copies de mon cartable pour commencer à les corriger. Pour cela, je prends mon dé de gamer qui va de 1 à 20 et m'attelle à la tâche. Après 5 minutes de travail acharné, j'ai enfin terminé cette tâche fastidieuse. Vivement que le syndicat nous obtienne une augmentation de salaire pour justifier ce temps de plus en plus long à passer sur ce type de travail. Ma journée de labeur est terminée. Enfin, il est 16h10. Ouf, je suis pas en retard pour regarder les chiffres et les lettres. J'aime tellement leur générique. Après un peu de jardinage et avoir veillé que mes blettes et mes salsifis poussent bien et tandis que le soleil décline maintenant véritablement, je me rends dans mon grand salon pour assister, comme tous les profs, à la grand-messe du soir. Question pour un champion. Quelle extase. Et dire que tout cela recommence demain. Ah mais non, j'oubliais, demain c'est mercredi. J'aurai tout l'après-midi pour rédiger des commentaires sur le site du Figaro et vérifier qu'aucun élève ne m'ait mis de notes sur le site Not To Be. Quelle vie formidable. Vous voyez, je comprends que vous ayez envie de tout ça. Et je suis conscient qu'il peut être dur de ne pas pouvoir intégrer une si belle famille. De ne pouvoir partager nos valeurs axées sur le travail, le corporatisme et la cordialité. Mais ne vous inquiétez pas, nos rangs s'ouvrent. Aujourd'hui, un simple entretien d'embauche suffit pour intégrer l'éducation nationale et vous obtiendrez le Graal, le statut de contractuel. À vous alors toutes ces promesses dont je viens de vous parler, même si vous n'aurez pas tous les avantages. Bon, vous n'êtes pas embauché à vie. Certains contrats veillent notamment à ce que vous ne puissiez pas être payé pendant les vacances. Vous n'avez aucune formation. On vous lâche devant une salle de classe sans que vous puissiez exprimer votre plus grand talent. L'improvisation. Votre poste peut sauter puisque vous n'êtes pas titulaire de votre poste. Bien sûr, vous êtes aussi moins payé puisque vous êtes la dernière roue du carrosse. Une sorte de pneu de rechange de l'éducation nationale considéré comme un prof au rabais, un enseignement de seconde zone. Et croyez bien qu'ici en Lozère, la zone on connaît. Quelle belle maison cette éducation nationale. Aujourd'hui, ce ministère qui préoccupe tant les esprits et l'actualité représente la première source de dépenses de l'État devant l'armée et la transition écologique. C'est dire si la priorité est la réussite de nos enfants. Et nous parlons là véritablement de leur éducation. Mais ceci ne date pas d'hier, il a fallu quasiment 200 ans pour en arriver là. Il est toutefois intéressant de constater comment les évolutions de ce ministère est révélateur de cette volonté d'encadrer au mieux la jeunesse du pays. Je vous propose de voir rapidement ce qu'il en est et peut-être mieux comprendre les ambitions de l'État quant à la formation de nos élèves. Ce ministère est né en 1824, mais sous un nom totalement différent, puisqu'il s'agissait alors du ministère des Affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique.
Waouh !
Et logiquement, le tout premier ministre à être nommé pour être en charge n'est autre qu'un évêque, et d'origine aveyronnaise. Il s'agit de Monseigneur Frayssinous. Pour rappel, nous sommes alors en pleine restauration et à ce moment-là, l'instruction des enfants est largement confiée aux ordres religieux, notamment les jésuites qui sont alors considérés comme de grands pédagogues. Il n'est donc absolument pas choquant de lier l'instruction et les questions ecclésiastiques. Il a fallu entendre la Troisième République pour que les choses évoluent. En 1871 d'ailleurs, le nom du ministère change pour devenir le ministère de l'instruction publique et des beaux-arts. Il faut dire que le contexte est radicalement différent. Le début de cette Troisième République est extrêmement difficile, tiraillé par les grandes tensions entre les républicains et les partisans de retour à la monarchie. Les premiers font alors tout pour réduire l'influence de l'Église, réputée ultra-conservatrice et partisane d'un retour à la royauté. Et les républicains vont donc essayer de détacher la vie publique et la religion. C'est pour cette raison que les affaires ecclésiastiques sont séparées de l'instruction publique. Et c'est pour la même raison, finalement, que les républicains n'osent pas donner le droit de vote aux femmes, car ces dernières vont en proportion plus souvent à la messe que les hommes. Elles sont donc plus susceptibles d'être influencées par les discours réactionnaires des curés le dimanche. À partir de 1879, les républicains ont pris un ascendant définitif sur les monarchistes. Ils ont, à partir de ce moment-là, les mains libres pour se débarrasser définitivement des congrégations religieuses qui continuaient d'assurer l'instruction des plus jeunes. Ce sont, en 1881 et 1882, les lois Jules Ferry qui rendent l'école gratuite pour que tous les enfants puissent être instruits dans le cadre républicain, laïque et obligatoire pour les 6-11 ans. Ainsi, le jeune régime républicain peut inculquer à toutes les nouvelles générations non plus des valeurs religieuses, mais bien, bel et bien républicaines pour ne pas être des sujets d'un roi ou de bons chrétiens, mais véritablement de futurs citoyens qui seront susceptibles de défendre ce régime s'il est attaqué. En 1889, les instituteurs deviennent des fonctionnaires d'État. Ces derniers sont donc formés par des écoles normales et suivent un programme édicté par le ministère de l'Instruction publique. Par ailleurs, leur nombre augmente fortement, en même temps que la taille du ministère ainsi que son budget. Encore une fois, tout cela est révélateur de la volonté du gouvernement de mettre la main sur le contenu des apprentissages et cette volonté d'instruire au mieux la jeunesse. Et ça marche. Un exemple concret, le sentiment de revanche vis-à-vis de la guerre franco-prussienne de 1870, où les manuels d'histoire rappellent sans cesse que l'Alsace et la Lorraine sont françaises et qu'un jour il faudra la récupérer. C'est la fameuse génération Agathon, dont faisait partie le général de Gaulle, qui se mobilise en 1914 et se bat avec ferveur dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. Même si toutefois cet engouement a sans doute été un petit peu exagéré. Mais là encore, c'est un enseignement distillé par la République aux nouvelles générations d'élèves pour qu'ils apprennent ce sacrifice au nom de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. En 1932, le ministère change encore de nom pour devenir cette fois l'éducation nationale. Autrement dit, l'instruction ne suffit plus. L'État veut bel et bien éduquer les enfants et devenir un complément de la parentalité. En 1932, nous sommes alors à une nouvelle période de forte tension où les régimes totalitaires s'affirment partout en Europe et où la jeunesse devient un enjeu central. On se prépare tous à une nouvelle guerre de grande envergure et il faut que les jeunes soient donc prêts à défendre leur patrie. Ce changement montre bien comment l'État veut maintenant véritablement former des citoyens et non plus simplement instruire des enfants. Cette transformation a perduré jusqu'à aujourd'hui, à l'image des enseignements qu'ont tous les enfants français, de la maternelle jusqu'au lycée. Et je pense notamment à l'enseignement de CJS, éducation civique, juridique et sociale, qui est devenu, avec la réforme du collège, en 2015, l'EMC, enseignement moral et civique. Cette ambition est encore portée par le président de la République, qui a rendu lors de son premier mandat l'école obligatoire à partir de 3 ans, ou qui est en train d'interdire l'instruction en famille. La question que l'on peut alors se poser à la vue de cette grande ambition de l'État, un tel budget est-il en fait véritablement suffisant pour éduquer tous les enfants de France en suivant les grands principes aussi complexes que la liberté, l'égalité ou la fraternité? Nous avons encore jusqu'à la rentrée pour trouver une réponse.
Ouais. Merci beaucoup, Raph. On se voit la semaine prochaine.
Oui, à voir.
Ou mercredi, si tu veux.
Vous m'envoyez de toute façon un courrier, etc. Et je réception.
La démarche habituelle, voilà, quoi.
Merci. Ouais.
Ou bien je vous mets à la cave de la radio.
Non, la place est déjà prise.
La place est déjà prise par Corto, évidemment. Tu feras un bisou à ton chien Blanquer ?
Oui. J'y manquerai pas. Il est pas très bien en ce moment. Merci. Il a perdu ses poils.
En tout cas, super. On apprend toujours plein de choses avec toi. On se retrouve avec Lise dans un instant. On fait une petite pause musicale. Boris Vian, cinématographe.
Quand j'avais 6 ans, la première fois que papa m'emmena au cinéma, moi je trouvais ça plus palpitant que n'importe quoi. Il y avait sur l'écran des drôles de gars, des moustachus, des fiers à bras, des qui s'entretuent chaque fois qu'ils trouvent un cheveu dans le plat. Un piano jouait des choses d'atmosphère, Guillaume Tell ou le grand air du Trouvère, et tout le public en frémissant se passionnait pour ces braves gens. Ça coûtait pas cher, on en avait pour ces 3 francs. Belle, 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 belle comme l'amour, blonde, 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 blonde comme le jour. Un rêve est passé sur l'écran et dans la salle obscurément, les mains se cherchent, les mains se trouvent timidement. Belle, 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 la revoilà, et dans la salle plus d'un cœur bat. La voiture où elle se croit en sûreté vient de s'écraser par terre avec un essieu cassé. Le bandit va pouvoir mettre la main sur le fric, c'est tragique, nom d'un chien. C'est fini, tout s'allume, à mercredi prochain. Maintenant ce n'est plus mon papa qui peut m'emmener au cinéma, car il plante ses choux là-bas, pas loin de 5 Cufa. Mais j'ai rencontré une Dalila, une drôle de môme, une fille comme ça. Elle adore aller le mercredi dans les cinémas. Bien sûr c'est devenu le cinémascope, mais ça remue toujours et ça galope. Et ça reste encore comme autrefois, rempli de cow-boys sans foi ni loi et de justiciers qui viennent fourrer leurs grands pieds dans le plat. Gar-gar-gar-gar-gar-gar-icoutère s'approche du ravin d'enfer. Fais attention, pauvre crétin, car l'anlade n'est pas très loin. À 500 mètres, il loge une balle dans un crouton de pain. Gar-gar-gar-gar, pendant ce temps-là, je la prends doucement au creux de mon bras. Le fauteuil où elle se croit en sûreté ne m'empêche pas, ma foi, d'arriver à l'embrasser. J'ai pas vu Cigari sort gagnant, mais comme c'est le cinéma permanent, ma chérie, rappelle-toi, on est resté un an et on a eu beaucoup d'enfants.
Alors que le débat fait rage sur les potins au collège et sur les profs qui s'amusent à les colporter.
Non, c'est professionnel, c'est vraiment pour connaître l'aspect moral des élèves.
De comment ils vont, tout ça.
Oui, c'est ça. ça a des répercussions sur leurs résultats scolaires, hein, n'empêche. Hein. Oh, bien, une rupture mal assumée.
De retour en plateau avec Liz, qui est avec nous, du officier sur cette antenne dans Balle au Centre, que j'avais le plaisir de faire avec toi, avec Tib.
Ouais,
avec
c'était super.
T'es parti il y a 2 ans, t'as pris
un
la
un peu
poule.
Plus, hein. Deux ans et neuf mois, presque trois.
Ah ouais,
trois,
déjà
hein.
Quasi ouais. Trois. Le temps passe tellement vite. En tout cas, direction la Nouvelle-Zélande. Alors, c'était pas ta destination finale, mais les événements qu'on connaît ont fait que. Déjà... Qu'est-ce qui t'a fait partir et nous laisser tout seul, orphelin, comme ça ? Blague à part, pourquoi t'es parti en Nouvelle-Zélande ?
Ouais, j'avais vraiment envie de découvrir le Pacifique depuis toujours et j'étais prof, comme toi, Raphaël, à Supagro ici. Mais voilà, un petit peu, j'avais l'impression, au niveau du boulot, d'avoir envie d'autre chose et d'être justement que prof, parce qu'à Supagro, on fait plein de choses, des projets, des papiers, etc. Mmh. Et ouais, je me suis dit, si je pars pas découvrir le Pacifique maintenant, est-ce que j'irai un jour ? Allez, c'est parti, j'y vais, tu vois. Et du coup, je voulais plus précisément enseigner en territoire français d'outre-mer, comme la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, mais j'ai fait une escale en Nouvelle-Zélande et j'y suis finalement resté.
Bah ouais, parce qu'il y a eu le machin Covid aussi là-bas.
Ouais, ce truc-là.
Tu vois, on va en parler maintenant. On a eu des échos comme quoi Jacinda Ardern, hein, qui est la première ministre néo-zélandaise, avait super bien géré la crise. Comment ça s'est passé ? Est-ce que c'est vrai ?
Oui, c'est quand même vrai. Je pense que ce qu'on a vécu en Nouvelle-Zélande était beaucoup moins lourd que vous ici en France. C'est-à-dire que dès l'apparition des premiers cas, Jacinda Ardern a complètement fermé le pays et ça a duré 2 ans. On le savait pas à ce moment-là, mais ça a duré 2 ans. Donc les quelques cas, je sais plus, peut-être quelques centaines ou quelque chose comme ça, ont vite été endigués. Il y a eu aucun mort. Et en fait, on a eu un confinement d'à peu près 1 mois et demi qui avait l'air beaucoup plus souple aussi que vous. C'est-à-dire qu'on pouvait vraiment sortir, se promener sans avoir un papier à signer et compagnie. Et après 1 mois et demi, il y a eu plus aucun cas. Et plus personne ne pouvait arriver dans le pays, donc le pays était complètement, entre guillemets, enfin une vie complètement, entre guillemets, normale, en fait, enfin, avec quand même des fois quelques alertes, etc. Et en fait, quand le pays a réouvert 1 an et demi après le premier confinement, on va dire, en France, en Nouvelle-Zélande, là, il y a des cas Covid, enfin, le Covid a redémarré, mais entre-temps, tout le monde avait eu l'opportunité de se faire vacciner, donc ça a été un aspect quand même moindre. Mais on a quand même vécu ce que vous avez vécu, mais avec 1 an et demi de retard, c'est-à-dire un espèce de pic, un deuxième confinement, des masques, etc. Mais beaucoup moins de mortalité, donc beaucoup moins de psychose, et puis déjà une connaissance de la maladie que vous aviez pas ici en France quand c'est arrivé, où tout le monde avait super peur. Voilà, là déjà ça faisait moins peur en Nouvelle-Zélande, on savait ce que c'était.
Ouais, faut dire que c'est insulaire, hein. Si jamais ça part, ça peut faire très très mal, quoi.
Ouais, donc après, à la fin, Jacinda Ardern, dans la première ministre, comme tu l'as bien dit, a été pas mal critiquée, parce qu'en fait c'est vrai que pendant 2 ans, ben moi par exemple, j'aurais bien aimé rentrer en France et revenir en Nouvelle-Zélande, mais je pouvais pas. Enfin moi après, en ce qui me concerne, je trouve que sa politique a été bonne, mais à la fin, les gens ne pouvaient plus que le pays soit fermé en fait, et que toutes les familles, enfin il y a des familles qui sont restées séparées pendant 2 ans, etc. Enfin c'est voilà, c'est ça a été été dur pour certaines personnes.
Chaud. Mais bon, du coup, t'as dû rester en Nouvelle-Zélande. Alors, devoir, c'est un bien gros mot, parce que finalement, ça se passait bien quand même.
Devoir, vouloir, ouais. Bah, ouais. C'est-à-dire qu'en fait, bah, j'ai rencontré mon compagnon Warwick, qui est néo-zélandais. Et en fait, après, moi, j'aurais toujours pu rentrer en France. Hein, vu que je suis citoyenne française, je pouvais toujours, à n'importe quel moment, rentrer en France. Sauf quand il n'y avait plus d'avion tout au début, mais ça a pas duré, ça a duré 2 ou 3 mois quand même. Enfin bref, à un moment, je pouvais rentrer en France. Mmh. Mais oui, j'ai pas spécialement voulu parce qu'en fait, si je rentrais en France, après, je ne pouvais pas revenir en Nouvelle-Zélande. Et bah, c'est vrai que du coup, après, bah, c'est la vie. Tu te dis, bah, je reste un peu là, je fais un visa pour pouvoir travailler. Puis après, j'ai développé mon projet professionnel, etc. Et puis voilà, c'est vrai que j'aurais bien aimé rentrer il y a pile un an. Et comme je pouvais pas, je me suis dit, bah, tant pis, on continue. Mais c'est vrai que ça commence à me manquer là quand même.
Transition toute trouvée, puisque tu viens d'en parler, tu as développé ton projet pro. Ouais. Qu'est-ce que tu fais ?
Eh ben, je suis prof de français. Donc, je voulais déjà j'ai été prof d'agronomie ici à Supagro et je voulais déjà me reconvertir en prof de français, mais je m'étais dit, ben, je ferais ça en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie. Et en fait, ben, j'ai commencé un peu, quand j'avais pas le droit de travailler, j'avais pas le visa, je commençais à donner des cours un peu comme ça, tu vois. Et puis bon, ça m'a vachement plu, quoi. Bon, finalement, donc, pour apprendre à des anglophones à parler français, hein, principalement. Et aussi un petit peu de cours bilingue pour des enfants qui savent déjà parler français, mais plus conversation. Et puis ça m'a plu, et quand je suis arrivée à Nelson, la petite ville où j'habite, donc c'est tout au nord de l'île du Sud, vous pourrez regarder, chers auditeurs, j'ai contacté l'Alliance Française, donc je ne sais pas si vous connaissez, c'est une association, enfin un réseau d'associations qui promet la culture et la langue française en fait, et voilà, je suis rentrée par la petite porte en étant remplaçante, et finalement j'ai créé 2 classes d'enfants, et je me suis lancée à mon compte en tant que prof privé, donc ça a été super facile ça, d'ouvrir mon auto-entreprise en fait. C'est, voilà, quelques papiers, rien à payer. Et puis c'était parti, quoi. Voilà, donc je suis officiellement prof privé et je paye mes impôts en Nouvelle-Zélande, et etc. quoi, ouais.
Et j'ai fait fabriquer un fort là-bas à Nelson. Ouais, Nelson Montfort. Bref. qu'est-ce qui. Raphaël, ouais, bon, Corto m'écoute même plus. Raphaël,
Raphaël pleure. Hein.
Pleure, voilà.
Il se dit que tu es un cadeau.
Il y a Raymond DeVos qui s'est retourné dans sa tombe.
En fonction que tu m'étonnes.
Peut-être Nelson Montfort aussi. Ah non, pardon.
voilà. En tout cas, qu'est-ce que tu aimes le plus ? Qu'est-ce qui t'a le plus surprise dans la culture néo-zélandaise ?
Le côté, bah, au niveau par exemple du boulot, facile, pas de stress, beaucoup moins d'administration. Tout est. Je sais pas, tout ce qui prend la tête un peu en France, les mutuelles, les machins, les assurances. Là-bas, tout est facile. Tu passes un coup de fil, tu vas arrêter ton assurance, tu l'arrêtes. Enfin, c'est bête, mais tu vois, je me rappelle avant d'être partie en France, d'être partie de France, pardon, de m'être prise la tête avec tous ces aspects administratifs. Ouais. En Nouvelle-Zélande, c'est hyper simple. Et en fait, il y a un côté très. Nous, on utilise le mot chill, mais bon, ça voudrait dire relax, calme en Nouvelle-Zélande. Et il n'y a pas d'arnaque. Enfin, il y en a un petit peu des arnaques, mais pas trop, quoi. Voilà, les gens n'ont pas de défiance. Alors, la Lozère, c'est assez cool aussi, mais quand même, je trouve que par rapport à la France, moins de monde, les gens sont curieux, donc ça, vraiment super, au niveau social. Et après, au niveau, ben, enfin, ça, c'est le cliché de la Nouvelle-Zélande, mais c'est vrai quand même, le côté immensité sauvage, quoi, tu roules des heures, tu vois rien, tu marches des jours, tu vois personne, quand tu pars en rando, enfin, des trucs comme ça, assez incroyables, et ce qui rend le pays encore assez, mais un peu dangereux, enfin, quand tu pars en aventure, tu le prends quand même au sérieux, et même quand tu traverses le pays, parce que, ben, t'as pas de station essence ou de village tous les 30 minutes, t'en as des fois tous les 3 heures quoi, enfin, tu vois, donc ça c'est assez bluffant, et vu qu'il y a quand même une densité de population moindre, ça rend tout moins dense, moins stressant, je dirais, quoi.
Parlons rugby.
Ouais.
Évidemment, toi, t'en as fait énormément ici en France. C'est un truc de fou là-bas. Alors, est-ce que t'as continué ? Est-ce que c'est la ferveur qu'on peut imaginer ? Voilà. Bon, avec les Blacks qui ont perdu 2 fois contre les Irlandais là. Mais c'est pas grave.
Ouais, c'est incroyable. Incroyable. Ça, ils avaient gagné le premier match.
La Coupe du Monde 2023 va être superbe.
Non, je pense que les Blacks, ils sont en perte de vitesse pour parler d'eux. Et le rugby, en fait, je pense que c'est aussi un petit peu en perte d'attractivité en Nouvelle-Zélande. Ils jouent tous au netball maintenant et au cricket beaucoup. Netball, c'est une sorte de basket.
Ouais,
et
le netball, d'accord.
Ouais, c'est une sorte de basket. Je connais pas les règles, mais ça se joue un peu comme le basket. Je crois qu'il y a moins de joueurs. C'est pas tout. C'est un basket un peu plus fun, je crois. Et le cricket, bah, c'est avec la batte, là. C'est une sorte. Je vais, attention, les gens vont hurler. Ouais, une sorte de baseball, ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est juste pour s'inflipper.
Mais je l'ai dit avant toi, comme ça, ils hurleront sur
ouais,
moi.
Non, et désolé pour, les, pour ceux qui sont vraiment à fond. Et du coup, en fait, ce qui est fou, c'est qu'ils connaissent tous le rugby. Et c'est, ça fait vraiment partie de leur vie, beaucoup plus qu'en France. Un peu comme le foot en France. C'est-à-dire qu'ils savent tous jouer. Et par exemple, ben, Warwick, mon conjoint, il n'aime pas forcément le rugby. Mais quand on regarde un match, il comprend peut-être même mieux que moi. Parce qu'en fait, il a, c'est dans la culture de, pour tous. Et ouais, du coup, je me suis inscrit à un petit club quand j'ai vraiment décidé de rester là-bas. Un petit club de nana, donc une équipe de filles. Et ouais, c'était assez incroyable parce que je dirais, par rapport à la France, ça se prend beaucoup moins au sérieux. Mmh. En France, quand on avait un match à 15h, c'était rendez-vous à 9h le matin pour faire des échauffements. Enfin, c'était tout un protocole. En Nouvelle-Zélande, on arrive trois quarts d'heure avant. Et j'ai, dans mon équipe, il y avait un mix de kiwis, donc les descendants des colons européens, donc des gens en majorité de couleur blanche, et des maoris, donc des descendants polynésiens. Et les Maoris, c'est des filles hyper costauds, quoi. Moi, j'avais l'habitude d'être la plus costaud ici. En fait, en Nouvelle-Zélande, j'étais la crevette, quoi. Ils me disaient tous, mais non, mais pourquoi tu joues devant, toi? Et du coup, je passais les balles à ces filles qui arrivaient lancées. Super bon esprit, vraiment détente, super sympa. Ouais, c'était vraiment... ça se prend moins au sérieux qu'en France. Ça fait partie de leur vie, en fait. C'est ça que je dirais, le rugby, ouais.
On y est. Bon, tu l'as dit, t'as trouvé l'amour, c'est chouette. Et ton amoureux est venu avec toi ici en France. Alors, comment ça s'est passé pour lui, pour les visas? Un peu compliqué, c'est un truc de fou.
Ouais, ben en fait, du coup, on n'a pas fait de visa, on a pris l'option, on reste moins de 90 jours. Ah. Et en fait, on va faire une petite escale hors de l'espace Schengen, parce qu'en fait, l'astuce, c'est que donc, tous les jours dans l'espace Schengen sont comptés. Et si on sort, par exemple, à son 80e jour en France, hors de l'espace Schengen, on arrête le compte, et après on revient.
Ah, t'as re le droit à 10 jours après.
Ouais, voilà, exactement. Donc on a saisi cette astuce, mais du coup on avait déjà décidé qu'on resterait soit trois mois et un peu plus en faisant une petite escale. Du coup, à Londres, pour qu'il voit sa famille. Enfin, c'est l'opportunité pour lui de voir sa famille, parce qu'en Nouvelle-Zélande, aller en Europe, c'est pas tous les jours. Et du coup, ouais, bon, on en parlait depuis très très longtemps d'aller en France. Donc, bah, moi, vu que je suis prof et que ça marche au trimestre là-bas, j'ai choisi de mettre un trimestre un peu off. Voilà, tous mes élèves ont été hyper compréhensifs et mes employeurs aussi. Et Warwick, bah, lui, il a arrêté son boulot parce que ça faisait un petit moment qu'il voulait arrêter. Donc ici, bah, je continue jusqu'à ce qu'on parte en France. Mais c'est beaucoup plus facile aussi de trouver du boulot là-bas. Quand je dis que tout est plus relax, c'est pas un grand drame de quitter son boulot ou d'arrêter son boulot pour un trimestre. Il y a vachement plus de compréhension là-dessus. Donc j'ai trouvé ça plus simple qu'en France.
Et puis on aura bien compris grâce à la chronique de Raphaël qu'être prof, c'est quand même la vie super belle, quoi.
Alors moi, je ne suis pas contractuel de l'éducation. Je ne suis ni contractuel ni fonctionnaire en Nouvelle-Zélande, donc j'ai des avantages, mais j'ai quand même les inconvénients. Et la Nouvelle-Zélande est comme ça, c'est très capitaliste au niveau de l'économie. Si tu bosses, t'es payé. Si tu bosses pas, t'es pas payé. C'est pas comme en France. Par exemple, mon conjoint Warwick, il bosse dehors, dans les jardins et tout ça. S'il pleut, il bosse pas, il est pas payé. Tu vois, des trucs comme ça. Et moi, si j'ai un élève qui a le Covid, je bosse pas, je suis pas payé. Donc, je trouve que la différence entre la... Je pense qu'on se rend plus compte en France, mais la sécurité qu'on a au niveau sécurité sociale et sécurité du travail est incroyable. Et en Nouvelle-Zélande, c'est quand même un peu plus sauvage à ce niveau-là.
Bon, vu que ça dure en France, hein, on va croiser les doigts.
Ouais, je peux te dire que ça fait prendre du recul quand t'es en Nouvelle-Zélande.
Ouais, ouais, comme quoi chaque pays a ses spécificités, bonnes ou...
Ouais, ouais, non mais exactement, voilà, je crache pas sur des pays, mais voilà, ça fait ouvrir les yeux, en tout cas, ouais. Ouais, ouais.
Qu'est-ce qui t'a manqué le plus de la France?
Clairement, en premier, les amis, la famille, clairement, et en deuxième, la culture. Parce que les Néo-Zélandais, ils se revendiquent d'une culture plutôt anglaise, on va dire. Mais moi, je trouve que le penchant culture américaine prend vachement le dessus. Et voilà, au cinéma, c'est les blockbusters, tu allumes la télé, tu regardes un match de rugby en rediff. Je te promets, il y a de la pub toutes les 7 minutes.
Ah ouais?
Oula. C'est horrible, et c'est de la pub, c'est criarde. Enfin, ouais. Et la culture a pris réduit, comme par exemple le Marvelous le dernier week-end. C'est quand même hallucinant, tout est gratuit. Enfin, c'est quand même... Après, tu peux adhérer, tu peux faire un don, mais tout est gratuit. C'est hallucinant. La Via Ferrata, on a fait à Florac, on joue le jeu, on va louer le matos à Seven Evasion. C'est quand même des prix très, très, très raisonnables. La Via Ferrata est accessible à tous.
À tous.
Oui, non. Non, mais je veux dire, il n'y a pas un péage à l'entrée, tu vois ce que je veux dire. En Nouvelle-Zélande, Warwick, il me disait, c'est $600 une Via Ferrata, c'est 400 euros.
Oh là là.
Et en fait, tout est capitalisé, même dans la culture. Et bah, du coup, mine de rien, bah, tu vas un peu moins à des concerts, tu vas un peu moins à des festivals. Tu vas quand même, mais voilà, c'est pas le même esprit. En France, ça rayonne, quoi. Et ça manque quand même vachement.
l'exception culturelle française pour laquelle on doit encore se battre.
Ouais, et ben merci de vous battre pour ça. Radio Barta, c'est tout le monde.
Est-ce qu'on a une chance de te voir revenir ici en CN?
Oh là là, c'est un coup bas ça en direct live comme ça. En Cévennes ou en France, écoute, c'est possible, c'est-à-dire que maintenant on se considère comme un couple binationaux et bah du coup, pas de pression. Moi j'ai voilà, je suis consciente des avantages et des inconvénients de chaque pays et puis voilà, on s'est dit on vient ici, on retourne quand même en Nouvelle-Zélande dans 3 mois et après on décide où on veut s'installer. Donc j'essaye de marquer des points pour la France, mais je pense que rien que là en 2 semaines, on a déjà marqué pas mal, rien qu'en regardant à Marvejol, d'accord, mais le passant devant une agence immobilière et le prix des logements, enfin voilà, je pense que la Nouvelle-Zélande est malheureusement, très malheureusement, en train de devenir un pays où les disparités entre les riches et les pauvres sont vraiment plus criantes qu'en France. Je pense que c'est en train de devenir un pays pour les gens riches parce qu'il y a une pression foncière. Enfin, les logements sont vraiment ridiculement chers. Et j'ai lu un article hier, c'est sur NZ Herald, NZHERALD, pour ceux qui lisent l'anglais. Il y a une classification des pays où il fait bon ou pas de s'expatrier et la Nouvelle-Zélande est le deuxième pire.
Ah oui.
À cause, je l'ai lu hier, à cause du pouvoir d'achat, enfin du faible pouvoir d'achat, du coup. Donc bon, c'est un beau pays, il y a beaucoup d'avantages, mais ça fait réfléchir sur l'avenir. Ouais.
Tu m'étonnes. Parlons un peu de radio.
Oui. Ouais,
puisque tu as créé l'excellente émission Balle au centre, qui nous manque sur cette antenne.
Ouais, moi aussi ça me manque.
Qui on faisait avec Tive, Kelly et moi. C'était vraiment un des bons moments à chaque fois. Est-ce que tu as fait de la radio là-bas et quelle presse a la radio locale associative en Nouvelle-Zélande?
Ouais, alors j'ai effectivement fait de la radio là-bas via l'Alliance française. C'est pas que pour les cours de français, c'est aussi un réseau culturel. Et j'ai une amie de l'Alliance française, qui est devenue une amie, qui animait l'émission de radio et qui m'a demandé si je voulais participer. Donc j'ai sauté sur l'occasion. Donc c'est une radio associative aussi qui s'appelle Fresh FM. Je dirais que c'est quand même moins connu que Radio Parda, c'est-à-dire que quand j'en parle à mes étudiants pour leur dire du coup ils ont l'opportunité d'écouter une émission française une fois par semaine, la plupart connaissent pas trop quand même. Donc je pense que c'est quand même... Je pense que c'est quand même moins connu. Je sais que déjà les radios associatives sont moins connues en France que France Culture, pour citer Raphaël ou France Inter. Hein, mais ouais, je pense que c'est un peu moins connu. Mais voilà, ça m'a fait plaisir de découvrir une petite radio qui ressemble un peu à celle-là, avec un studio quand même un peu plus petit. Et je pense aussi quand même pas mal de moyens. Et justement, il y a quand même beaucoup d'émigrés en Nouvelle-Zélande, donc ils proposent une émission française, une émission espagnole, enfin des choses comme ça. Donc ouais, ça existe, mais toujours pareil. Comme la culture existe et tout ça, mais à moindre échelle quand même.
Le temps passe ultra vite. Est-ce que tu es motivé pour ton interview détente?
Ah oui, c'est vrai, j'ai préparé
Allez,
ça.
Allez, on y va, jingle.
C'est l'heure de l'interview détente.
Bah ouais, parce que j'ai pas le droit de dire feel good.
Et non, je n'ai pas le droit de dire feel good. Mon amoureuse me l'interdit, on ne parle
pourquoi
pas anglais.
Pourquoi? Parce que tu le dis trop souvent?
Mais là, non, parce que c'est anglais et donc
ah bah non,
français.
Bah non.
Hein, voilà. Sauf que là, ça aurait bien collé. Malise, on y va. Livre que tu peux proposer à nos auditeurs auditrices.
Alors, pour l'instant, c'est en français, ça va. Un livre, Le Grand Marin de Catherine Poulain. Je ne sais pas si tu connais, Ben. Je l'ai découvert en plus grâce au Festival du Livre de Florac. Petite publicité, je ne sais pas s'il existe encore, mais en tout cas, petite publicité parce que c'était un événement que j'avais vraiment trouvé génial. Organisé par, je ne me rappelle plus, mais quelqu'un de la bibliothèque de Florac. Et en fait, Le Grand Marin, c'est l'histoire plus ou moins autobiographique, mais un peu romancée, d'une femme qui est bergère et qui décide du jour au lendemain d'aller sur les bateaux de pêche au flétan, donc de pêche au gros, dans l'Atlantique Nord, quoi, plus ou moins Alaska, enfin je sais plus exactement. Et du coup, j'ai beaucoup aimé ce livre parce que l'écriture est incroyable. C'est une écriture très incisive. Des fois, c'est même pas des phrases, c'est des bouts de phrases en fait qui expriment le ressenti de la personne. Et puis bon, en plus, elle plonge vraiment dans cet univers ultra masculin, ultra dur. Enfin, un petit bout de femme là-dedans, quoi. Donc, à la fois, on apprend des choses, on découvre ce que c'est la pêche au gros et cet univers très très dur. Et à la fois, l'écriture est vraiment, je dirais, un peu sauvage, quoi, basée sur le ressenti. Et tout, donc voilà, je conseille chaudement ce livre aux auditeurs pour voyager aussi.
Le Grand Marin de Catherine Poulain, un film ou une série?
Un film que j'ai vu lors du festival du film français à Nelson en Nouvelle-Zélande, ça s'appelle Un autre monde, donc je sais pas s'il est sorti en France, parce que du coup des fois c'est soit avant soit après qu'on les a en anglais. Un autre monde de Stéphane Brisé avec Vincent Lindon et Sandrine Kimberlin. Et en fait c'est l'histoire de, enfin c'est l'histoire d'un chef d'entreprise, mais d'un chef d'entreprise d'un grand groupe, donc c'est pas le patron, il a déjà des patrons qui sont des actionnaires, etc., qui se retrouve face à un plan de licenciement imposé par ses actionnaires et ses patrons, enfin sa direction à lui, et donc il est entre le marteau et l'enclume, quoi, pendant tout le temps, et du coup il y a les répercussions sur sa vie familiale, et le film est très dur, hein, quand même, je tiens à le dire. Si vous avez envie de rigoler, regardez pas ce film. Mais il m'a touchée parce que, c'est un énorme coup d'alerte sur comment on peut être broyé par sa vie professionnelle. Mmh. En plus, Vincent Lindon est très silencieux dans tout le film. C'est vraiment sur comment c'est filmé, les non-dits, les silences et la lourdeur, quoi, omniprésente. Et j'en ai rêvé la nuit. Ça m'a réveillée parce que j'ai trouvé ça tellement dur, et j'imagine que tous les gens qui vivent ça, et aussi un peu l'a priori qu'on a sur les patrons, ouais, il veut faire un plan de licenciement quelconque, etc. Mais lui, qu'est-ce qu'il vit derrière, en fait, et à quel point ce mec, il a sacrifié toute sa vie pour se faire bananer, quoi. Enfin, c'est, ouais, ça m'a vraiment vraiment choqué, quoi. J'avais oublié que la vie professionnelle pouvait être aussi dure, quoi, vraiment.
Un autre monde de Stéphane Brisé avec l'engagement social et sociétal de Lindon, d'ailleurs, qui a fait énormément de films.
Il a fait trois films, en fait, c'est une trilogie, et enfin qui se suit pas. Et il y a un film où il incarne un syndicaliste, un autre un chômeur, et là un patron. Mmh. Et bon, maintenant j'ai très envie de voir les deux autres films.
Et d'ailleurs, on parlait de l'exception culturelle française au Festival de Cannes, dernier Festival de Cannes. Il a fait une diatribe sur la culture française et comment il faut se battre et s'engager pour elle.
Ah, super.
C'était absolument incroyable, et allez la voir, auditeur, auditrice.
Okay.
Écoutez Vincent Lindon, de toute façon, voilà, c'est un super gars et un super acteur. On finit avec un ou une artiste musicale.
Oui, alors là, je retombe dans mes travers anglais, mais c'est pas à cause de la Nouvelle-Zélande. Alors, un groupe qui s'appelle The Smile. The Smile, c'est un groupe assez récent, fondé par le chanteur et le guitariste de Radiohead, donc Tom York et... Oui, arrête de rigoler.
Tom York et
Johnny Greenwood. Ouais, enfin bon, moi, j'étais très, très, très fan de Radiohead, donc quand ce groupe est sorti, forcément ça m'a interpellé. Je pense que c'est il y a à peu près un an ou six mois, quelque chose comme ça, et j'ai eu la chance de les voir jouer aux arènes de Nîmes comme cadeau de retour, on va dire, il y a une semaine, et c'était une semaine après mon arrivée à peine. Et par rapport à, donc c'est en anglais, c'est du rock, et bon, la voix de Tom York est incroyable, et je trouve, enfin voilà, allez écouter si vous connaissez pas. Et Radiohead, certains auront tendance à dire peut-être que c'est un peu moins accessible, un peu plus perché, des fois un peu dépressif, onirique. Enfin voilà, je peux comprendre ça. Mais The Smile, je trouve qu'il y a une belle énergie. C'est plus rock, c'est plus waouh, et ça prend vraiment comme Radiohead. Et ouais, la voix de Tom York qui arrive à monter dans les aigus, à redescendre, est vraiment incroyable. Donc voilà, je trouve que ça porte bien son nom. Enfin, en tout cas par rapport à Radiohead, je trouve que c'est le penchant un peu plus, un peu plus accessible et un peu plus souriant de ces belles mélodies.
The Smile, merci beaucoup Lise.
Avec plaisir Ben, c'était génial.
Ah, quel bonheur de te rencontrer ici à Bartas. Hein. Merci beaucoup et puis à très vite. Hein. Tu reviens quand tu veux, la porte est ouverte, chez toi ici. Hein.
Je ferai un petit bilan de mes 3 mois en France. Ah, si
avec plaisir, carrément. Merci Corto.
Ouais, bah avec plaisir, comme toujours. Hein.
Ah, tu peux aller faire une petite sieste là. Toi,
ah, c'est bon, je peux retourner au lit.
Ouais. Merci à toi, Raphaël, là aussi. On se voit très vite.
Oui, à toi de me dire.
Ouais, bah, ça marche. Bah, écoute, je te dis juste après. On va bien trouver un petit moment pour que tu nous fasses encore partager ta culture absolument incroyable.
Oui, bien sûr. Ça fait partie de ma mission.
Merci à toutes et tous de nous suivre. On se retrouve mercredi avec Xavier Boulot, qui est musicien et auteur de BD. Il officie dans la région. Il y aura aussi le premier reportage que j'ai réalisé ce week-end au Marvelous Pop Festival, qui était absolument incroyable, effectivement, comme tous les ans. Enfin, sauf les deux dernières, évidemment, on va pas revenir là-dessus. Mais bref, c'était vraiment super. Merci à toutes et tous de nous suivre. Restez bien sûr Bartas, on y est bien, et on se quitte avec Boris Vian, la Java des bombes atomiques. Passez une excellente journée. À mercredi. Ciao.
Merci Ben, salut.
Par autorisation spéciale de la commission du même nom, la Java des bombes atomiques. Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques.
sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant leur parole, la tonton qui soupire et qui s'écrie comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui clenche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Tonton, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, comme on a mes consciences. En détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant, l'élut immédiatement chef du gouvernement.